In nomine Patris et Filius Spiritus Sancti. Amen. Excellence, chers confrères, chers séminaristes et chères sœurs et chers fidèles, cela n'arrivera pas souvent que les ordinations icônes coïncident avec la fête du Sacré-Cœur. Mais c'est le cas aujourd'hui. Et cette année-ci, nous avons vu aussi ce qui se voit maintenant régulièrement, ce jour des ordinations icônes, le 25e anniversaire du sacerdoce de plusieurs de nos prêtres. En l'occurrence, 7 prêtres qui auront été ordonnés donc en 1978, et c'est un quart de siècle qu'ils ont été prêtres. Ils sont parmi nous, tous les 7. Ils ont célébré hier cet anniversaire de leur sacerdoce. Nous les en félicitons, comme d'ailleurs nous félicitons tous les prêtres qui reviennent chaque année pour assister à cette messe d'ordination. Ils doivent aimer ou leur sacerdoce ou leur séminaire ou les deux, très probablement les deux. Et c'est encore une grâce. C'est toute une phalange, pas nombreuse, mais quand même une phalange de prêtres dont un bon nombre a été ordonné ici même, qui s'étend dans le monde entier et qui est là pour rendre témoignage de la vérité. Et pensons à ce sacerdoce sous forme de 3 dons du Sacré-Cœur. Tout ce qui nous entoure est don du Sacré-Cœur, ces montagnes, ce beau temps, la pluie, notre survie, notre vie, tout est don de Dieu et don du Sacré-Cœur. Je pense aujourd'hui à 3 dons du Sacré-Cœur. Et premièrement, pour les hommes, pour nous autres hommes tombés, la souffrance est don de Dieu. Chose facile à dire, loin d'être toujours facile à vivre. Mais c'est certainement vrai. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous plus ou moins orientés vers notre propre volonté et détournés de la volonté de Dieu. Nous sommes tous plus ou moins détournés donc de la réalité et orientés vers notre fantaisie, surtout aujourd'hui. Le monde moderne se plonge dans la fantaisie et s'éloigne chaque jour davantage de la réalité, avec ses machines, avec ses portables, avec ses petits écrans, avec ses technologies. Il pense pouvoir refaire la réalité à son gré. Et qu'est-ce qu'il y a pour lui dire que cela ne marche pas, cela ne va pas? Eh bien, la souffrance sous moult formes. Par exemple, les hôpitaux de psychiatrie qui se remplissent aujourd'hui, les prisons dont on ne peut pas construire assez. Et en l'occurrence, en vérité, toute souffrance est un rappel à la réalité. Et toute souffrance nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres. Nous devons, voilà quelque chose que nous devons subir qui ne nous plaît pas. Et nous n'en sommes pas les maîtres, car si nous l'étions, nous écarterions complètement la souffrance. Or, elle ne se laisse pas écarter. Et de façon ou d'autre, elle revient parce que nous sommes pécheurs. Et s'il n'y avait pas cette souffrance, eh bien, nous nous livrerions encore plus à la fantaisie qui mène directement en enfer. Donc, le bon Dieu nous rappelle qui est maître par la souffrance. Et, chers ordinants, de façon ou d'autre, vous allez souffrir. Et sachez y reconnaître la main de Dieu, et non seulement la main de Dieu, mais le don de Dieu. Le poète grec Eschyle disait « En te pathein mathein », c'est en souffrant qu'on apprend. On apprend la structure de la réalité que je ne veux pas apprendre, mais sous les coups de la souffrance, je l'apprends par la force des choses. Je suis obligé à l'apprendre. L'homme moderne, remarquez, même quand il souffre, refuse la souffrance et refuse ses leçons. Il insiste pour poursuivre sa fantaisie. Et il s'y enfonce, je viens de le dire, toujours davantage. Sachons nous soumettre à cette loi de la souffrance, mais reconnaissons-y le don de Dieu, le don du Sacré-Cœur. Bien sûr, il nous a montré lui-même l'exemple par sa croix. La souffrance des innocents, elle a un sens. Et ce sens, c'est l'expiation des péchés des autres. Beaucoup d'entre nous, c'est nos propres péchés. Les innocents, c'est les péchés des autres. Mes chers amis, la souffrance risque de s'abattre sur nous aujourd'hui. Sachons en profiter. Et sachons ne pas maudire le Seigneur lorsque nous verrons souffrir les petits et les innocents. Le Sacré-Cœur sait ce qu'il fait, si on peut dire ainsi. Dieu est Dieu. Mes voix ne sont pas vos voix, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit-il dans le prophète Isaïe. Mais derrière tout ce qui risque de s'abattre sur nous aujourd'hui, il y a toujours, toujours, l'amour et la sagesse insondables du Sacré-Cœur. Aimons-le, malgré, si vous voulez, toutes les apparences. Aux hommes tombés, la souffrance. Aux hommes condamnés, le sacerdoce et l'Eucharistie, les deux vont complètement de pair. C'est dans les derniers temps, les apôtres le disent en plusieurs endroits du Nouveau Testament, nous savons que notre Seigneur s'est incarné dans les derniers temps du monde. C'est fait déjà 2000 ans, beaucoup d'entre nous, plongé dans la fantaisie de la diséducation moderne, nous ne pouvons reculer dans nos pensées que 20 ans, à la Première Guerre mondiale, à la Révolution française peut-être, je ne sais pas, tout au plus 2000 ans à l'incarnation, mais de fait, l'incarnation marque l'arrivée des derniers temps. Il est alors peu surprenant qu'aujourd'hui, après 2000 ans des derniers temps, les choses aillent mal. Il est normal que si déjà il y a 2000 ans, les derniers temps arrivaient, après 2000 ans de ces derniers temps, ce soit vraiment la fin. Il est normal que les choses se détériorent aujourd'hui comme elles le font. Ne soyons pas indignés, pour ainsi dire, c'est la pauvre nature humaine déchue qui fait un mauvais usage de son libre arbitre et derrière la permission de Dieu absolument nécessaire pour que les choses arrivent comme elles arrivent, derrière la permission de Dieu, il y a toujours donc l'amour du Sacré-Cœur. Cette dégringolade, cette chute de l'homme moderne, à la fin des derniers temps, était prévisible. Mais au début de ces derniers temps, notre Seigneur est arrivé lui-même, s'est incarné lui-même comme remède suprême pour ce qui était déjà logiquement un mal suprême. Le mal suprême y était déjà pour que notre Seigneur s'incarnât. Et avec son incarnation, ce pontife suprême de la nouvelle loi nous a donné le nouveau sacerdoce, le sacerdoce catholique. Le mot catholique n'est pas dans saint Paul, mais la chose y est. Ce nouveau sacerdoce qui est l'épanouissement et l'achèvement de l'ancien sacerdoce lévitique. Et maintenant, les pauvres hommes d'Église, ces pauvres, ces objectivement apostats, qui veulent en revenir au sacerdoce de l'ancienne loi, qui veulent que nous revenions de façon ou d'autre au céder, Pâques célébrées comme selon l'ancienne loi. Ils ont complètement perdu le sens de. S'ils n'ont pas perdu la foi, ils ont parfaitement perdu le sens de la foi. Le nouveau sacerdoce qui remplace complètement l'ancien sacerdoce. L'ancien sacerdoce n'était là que pour aboutir à ce nouveau sacerdoce. Le novi et eterni testamenti. Ce sacerdoce nouveau et éternel pour l'éternité. Il n'y aura pas un troisième. Il n'y aura pas encore un sacerdoce après celui-ci. Les prêtres catholiques sont le remède suprême au mal suprême qui arrivait déjà il y a 2000 ans. Et les prêtres catholiques sont là depuis. Inchangé et inchangeable, immutable. Et voici qu'aujourd'hui, Dieu nous bénit, le Sacré-Cœur nous donne encore 11 nouveaux prêtres et des diacres qui seront, si Dieu veut, l'année prochaine, encore des prêtres. Il y avait toujours, depuis le début du monde, il y a eu, depuis le début de l'humanité, il y a eu un sacerdoce, il y a eu un sacrifice qui a rendu culte, le vrai culte à Dieu. Et maintenant, ce vrai culte, c'est le culte, depuis 2000 ans, ce culte, c'est le culte catholique que l'on ne peut pas changer et que l'on ne peut pas soumettre à cette fantaisie de l'homme moderne, détraqué et qui devient fou. Et aux hommes tombés, la souffrance, le don du Sacré-Cœur de la souffrance, aux hommes condamnés par le poids de leur péché qui allait toujours augmentant, l'énorme soulagement, ce remède suprême, encore ce don du Sacré-Cœur, le don de lui-même dans le sacerdoce catholique et l'Eucharistie. Impossible sans ce sacerdoce. Le centre même est le centre même de la vie de ce sacerdoce. Le don du Sacré-Cœur lui-même réellement, vraiment et substantiellement présent pour qu'il se donne comme il brûlait de se donner. Je suis dévoré par un feu. et que je me sens à l'étroit tant qu'il ne soit pas allumé dans le monde entier, allumé par le moyen de ses prêtres. Cette Eucharistie dans laquelle notre Seigneur se livre lui-même à nous autres pauvres pécheurs. Et puis, troisièmement, à l'homme moderne, la fraternité Saint-Pie-X, encore un don du Sacré-Cœur. Vous allez me dire, c'est exagéré, mettre en parallèle des deux dons universels comme la souffrance et le sacerdoce catholique et un don particulier comme la fraternité Saint-Pie-X. Oui, sous un certain angle, c'est exagéré, d'accord. Mais depuis maintenant 30 ans, un peu plus de 30 ans, n'est-ce pas cette fraternité, pour peu nombreuse qu'elle soit, c'est pas une question de nombre, mais n'est-elle pas l'encre du sacerdoce catholique? En des temps extrêmement difficiles, je l'ai dit, logiquement difficiles, il fallait en arriver là. Si Dieu n'interrompait pas, si Dieu ne voulait pas interrompre la chute du libre-arbitre, il devait en arriver là. Pendant des siècles, bien sûr, le don de l'incarnation a relevé l'humanité, a relevé. Et puis sont arrivés les temps modernes à la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge était un triomphe, mais les hommes restaient libres. Dieu aurait pu faire continuer le Moyen-Âge s'il avait voulu. Ce n'était pas là sa sagesse. C'était marqué dans l'Écriture sainte qu'on arriverait à l'Antichrist, et du Moyen-Âge à l'Antichrist, c'est une décadence assez prolongée. Alors, Dieu est venu en aide à son Église avec la contre-réforme, ce qu'on appelle la contre-réforme, avec une grande collection de saints, et cela a prolongé cela a remis la fin, a retardé la fin, mais si Dieu n'intervenait pas continuellement, la fin devait arriver. Il y a eu Saint-Pie-X, il y a eu l'Église s'est maintenue au moins extérieurement jusqu'à Vatican II, mais Vatican II, c'était d'une certaine façon logique. Étant donné le libre arbitre et la permission de Dieu pour que les hommes arrivent finalement à l'Antichrist. Le Seigneur ne veut pas le péché, mais il veut permettre le péché, il a voulu permettre cette décadence du monde, pour ces raisons infiniment sages et insondables, nous voici, et alors, grand nombre d'hommes d'Église perdent au moins le sens de leur foi, si ce n'est pas leur foi, et nous voilà dans la crise post-conciliaire. Et le Seigneur vient en aide à son Église, sans doute, par exemple, par beaucoup d'âmes privilégiées que nous ne connaissons pas et qui subissent un calvaire privé, des âmes privilégiées, des âmes clouées à un lit de souffrance, qui subissent les douleurs de la passion. Nous savons qu'il y en a eu, très probablement, aujourd'hui, il y en a beaucoup dont nous ne savons rien. Pour ces âmes elles-mêmes et pour le Seigneur, il est mieux qu'elles restent cachées. Mais il n'y a que ces âmes. Encore, si on cherche à mettre une logique au plan de Dieu, logiquement, le péché aujourd'hui est tel qu'il doit y avoir cette expiation dont nous ne savons rien, car nous ne voyons pas dans le domaine public une expiation pour ce déluge de péché. Alors, en privé, mais et qu'est-ce qu'il y a en public? En public, il y a cette résistance suscitée par un évêque accompagné finalement par un deuxième, un archevêque, un grand archevêque qui garde la foi et le sens de la foi et qui établit un équilibre humainement très précaire et délicat. Un équilibre entre l'hérésie d'un côté et le schisme de l'autre côté. Et cet équilibre, par la grâce de Dieu, on peut dire que la fraternité l'a maintenu depuis et le maintient. Et Dieu est donc, le maintiendra encore. Et pourtant, tout comme le funambule doit maintenir son équilibre à tout moment qui fait la traversée de la corde, ainsi cet équilibre est à refaire tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Et aujourd'hui, sous une offensive de charme du côté de Rome, il y en a, plusieurs personnes se posent de nouveau la question sur l'équilibre de la fraternité. Ne devrait-elle pas se rapprocher davantage de Rome? Ne devrait-elle pas couper complètement avec cette Rome? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Ces Romains, en général, je généralise, ces Romains sont pris par la peste de l'esprit moderne, la peste du subjectivisme. Ils sont comme incapables, ou même directement incapables de nous comprendre. Nous autres, par la grâce de Dieu, je crois que c'est le cas du grand nombre entre nous aujourd'hui, des prêtres comme des laïcs, sinon tous, nous avons saisi, Dieu aidant, qu'il y a une vérité objective. Et c'est cette vérité objective que ces Romains ont perdue. Ils croient que la vérité est subjective. Et c'est pour cela que même s'ils disent notre Seigneur est réellement, substantiellement et vraiment présent sous les espèces de l'Eucharistie, même s'ils disent exactement ce que nous disons, ces mots, pour eux, signifient autre chose. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, par exemple, une nécessité de leur cœur, une conviction de leur esprit, un besoin de leur être, si vous voulez. Alors, imaginez un mathématicien qui dirait 2 et 2 font 4 parce que c'est une nécessité de mon être. Parce que c'est un besoin de mon âme. On lui dirait, vous êtes fou. 2 et 2 font 4, absolument indépendamment de votre chère ou belle ou bien âme bien intentionnée. C'est objectif, 2 et 2 font 4. Ah oui, mais il faut que moi j'assimile 2 et 2 font 4. Il faut que je sois pénétré de 2 et 2 font 4. Donc, c'est la pénétration qui fait que 2 et 2 font 4. Alors, mon cher, si demain tu étais pénétré de 2 et 2 font 5, tu serais demain également convaincu que 2 et 2 font 5. Ah oui! Parce que c'est mon être même. Il y va d'une persuasion. Il faut que je possède cette vérité. Oui, il faut que tu la possèdes. Mais ce n'est pas ta possession qui fait la vérité. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la possession? Avec de tels gens, il n'y a comme pas moyen de discuter. C'est la contagion mentale de l'homme moderne. Et qui est tellement commun que l'on ne s'en rend plus compte qu'on est ainsi. Et remarquez bien, si on remplace la vérité objective par cette possession intime subjective ont peut-être de bonne volonté. Et alors, ces Romains peuvent être de bonne volonté. Et plus ils sont de bonne volonté, et mieux ils sont capables de donner le change. Et est-ce qu'ils veulent donner le change? Il n'est même pas nécessaire de nous dire qu'ils veulent nous tromper. Car il est bien possible, le mal, cette contagion, c'est tellement profondément ancré, pénétré dans l'esprit moderne, dans l'esprit des gens modernes, que s'ils ne se rendent pas compte, eh bien, ils sont dans l'état dans lequel ces Romains apparaissent par rapport à nous autres, c'est-à-dire, apparemment, ils ne se rendent pas compte combien ils sont loin de la vérité catholique. Un cardinal dira, « J'ai la même religion que vous autres de la Fraternité Saint-Pédis. » Il n'a aucune idée combien il en est loin. Car un mathématicien à possession intime, si je puis le qualifier ainsi, il peut réciter toute la table de multiplication et de façon juste. Et tout en récitant ce qui est vrai, à tout moment, il est persuadé que c'est par conviction intime que c'est vrai, que ce qu'il nous récite, c'est la beauté de ses convictions intimes. Alors, ce n'est pas cela la mathématique. Et s'avancerait-on sur un pont qui aurait été construit par un ingénieur dont les calculs suivent ses convictions intimes et personnelles? Moi pas. S'avancera-t-on vers ces Romains sur un pont construit par leurs convictions intimes? Un catholique, pas. Mais alors, si ces Romains sont pénétrés dans la folie moderne, et vous le qualifiez de folie, et ce l'est, eh bien, si ces Romains sont fous, objectivement parlant, et objectivement parlant, c'est le cas, ils ne sont pas cliniquement fous, mais ils sont idéologiquement fous. Si nous nommons la foi catholique, si nous classons la foi catholique parmi les idéologies, alors ils sont idéologiquement fous. Du point de vue de la foi, ils sont fous. Alors, peut-on les fréquenter? S'il s'agit d'une contagion, ne risquons-nous pas de nous laisser contaminer en les fréquentant? Alors, ne devrions-nous pas tout à fait couper? Ah, mes chers amis, voici l'équilibre de la fraternité, osais-je dire. D'une part, nous qui, par la grâce de Dieu, détenons la vérité, la plénitude de la vérité catholique, et c'est un don, ne nous le rend pas. Eh bien, nous qui avons reçu ce don, nous avons le devoir de mettre en contact, de permettre que ces Romains prennent contact avec la vérité. Nous avons un devoir de garder cette vérité, nous avons un devoir de fuir tout contact qui mettrait en péril la vérité. Une veilleuse n'a pas besoin de beaucoup cuire, ce n'est pas son rôle, mais une veilleuse doit absolument rester allumée. Ça, c'est son devoir d'État, c'est son but, ce pourquoi elle est là. Et la veilleuse doit être nourrie, je l'ai dit, de whisky pur, parce que pour peu que le whisky soit dilué ou frelaté, la veilleuse s'éteindra. Car le whisky peut bien brûler, mais le whisky avec l'eau, peu d'eau suffit pour qu'il ne brûle plus. Alors, nous devons quand même mettre à la portée de Romains cette vérité? Et comment cela se fera-t-il si nous refusons tout contact? Et d'autre part, il y a un calcul dangereux, un calcul humain, si vous voulez. C'est moins surnaturel, mais c'est vrai quand même, que la vérité mettra la division entre les Romains et fera œuvre de discernement des esprits parmi les Romains. Apparemment, le mensonge de Vatican II est monolithique. Mais il ne l'est pas. Et cette petite pierre finira par descendre le géant, comme dans l'Écriture sainte. Mais la petite pierre ne le fera pas si elle ne frappe pas. Encore, si la petite pierre reste cachée, si elle ne frappe pas, le géant restera debout. Dans la nature des choses, il est dans la nature des choses, donc, en cette crise qui arrive logiquement à la fin de la contre-réforme, il est dans la nature des choses que la fraternité ait fasse grande attention dans ses contacts avec les Romains et en même temps ne refuse pas tout contact avec les Romains. Et pour le reste, c'est entre les mains de Dieu. L'Église catholique appartient à Dieu et c'est lui qui s'en occupe. Vous et moi, nous faisons notre devoir d'État à la place où Dieu nous a mis et cela suffit. Et ce devoir d'État, aujourd'hui, peut entraîner beaucoup de souffrance. Et mes chers amis, la souffrance est authentique. La souffrance authentifie, nous assure de l'authenticité. Il y a beaucoup de choses fausses dans le monde qui nous entoure, mais la souffrance, elle est vraie, parce que nous n'en voulons pas, mais elle est là, elle s'impose. Alors, très cher laïc, très chère mère de famille, qui souffrait de ce que font vos enfants, par exemple, de ce que vos enfants apparemment s'égarent ou perdent la foi, qui souffrait de voir les dangers pour vos enfants, les dangers pour la foi et pour le salut éternel de vos enfants, les pères de famille également, qui veulent protéger leur famille et qui se trouvent entourés de difficultés et de dangers pour ce faire. Eh bien, que chacun de nous, c'est Sapidis qui le disait déjà, il voyait ce qui arrivait, ce qui devait arriver, ce qui allait arriver. Il disait déjà que chacun fasse son devoir et tout ira bien. Ah, mes chers amis, si chacun de nous faisait son devoir, ça irait loin. Ah, mes très chers confrères dans le sacerdoce, félicitations que vous êtes là. Félicitations. Il y a eu 7 prêtres qui ont célébré cette année-ci leur 25e anniversaire. Ils étaient ordonnés, ils furent ordonnés 16 en 1978. Sur 16, 7 sont encore là. Félicitations. Faisons notre devoir. Chers ordinants, faites votre devoir. Ne cherchez pas à sauver l'Église. Vous sauverez l'Église en ne vous occupant pas de l'Église, en vous occupant de votre devoir d'État, le devoir qui est à portée de main. C'est le petit héroïsme qui est aujourd'hui le grand. Le grand héroïsme consiste en les petites choses. Et ces petites choses constitueront la pierre constitue déjà la pierre qui menace le géant. Le géant en est bien conscient. Il se doit de nous avoir. Dieu aidant, il ne nous aura pas. Mais ça, si chacun nous faisons notre devoir. Et alors, chers laïcs, ne vous plaignez pas si les prêtres annoncent les exigences de l'Évangile. Ne pensez pas, nous sommes traditionnels, donc nous sommes OK. Ce n'est pas cela devant Dieu. Dieu a craché les tièdes au moment de Vatican II, et si l'on a besoin, il le fera de nouveau. Et si nous nous attiédissons, il nous crachera également. Attention. Alors, sachant reconnaître la souffrance là où elle est, et sachant l'accepter comme un don du Sacré-Cœur, dont à côté de ce don du sacerdoce et de ce don de la fraternité Saint-Pitis. Chers ordinants, vous êtes à la veille d'une belle vie, la vie sacerdotale. Elle n'est pas facile, mais elle est très belle. Et de vous va dépendre beaucoup. Par nous-mêmes, nous sommes largement incapables. Mais c'est le Sacré-Cœur qui nous a élus. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est lui qui nous a donné le sacerdoce. Et saint François Régis de dire, l'éternité ne sera pas assez longue pour remercier Dieu de nous avoir fait des prêtres. Et c'est très juste. Chers ordinants, vous serez bientôt, si je puis dire, marchands d'éternité. Car entre vos mains est le don de l'éternité. Par la clé des sacrements, vous ouvrirez le ciel aux gens. Quelle grandeur! Soyons humbles et n'oublions jamais de recourir à la très sainte Vierge Marie, sans laquelle Dieu n'a pas voulu que nous ayons son Fils, mais à travers laquelle nous vient son Fils et à travers laquelle nous vient toujours ce sacerdoce. Elle a connu la souffrance, bien sûr, Notre-Dame des douleurs, au pied de la croix, surtout, mais durant toute la vie de son Fils, car elle savait comment cela devait prendre fin. Recourons à la très sainte Vierge au moment de grandes difficultés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers séminaristes, mes bien chers frères, il nous est donné aujourd'hui de célébrer cette magnifique fête de la Pentecôte. Nous célébrons la descente du Saint-Esprit, Saint-Esprit promis par notre Seigneur sur la Sainte Vierge et les apôtres. Il est apparu sous forme de langue de feu. Ensuite, les apôtres remplis du Saint-Esprit se sont mis à parler en toutes sortes de langues, et aussi tous ceux qui écoutaient comprenaient dans leur langue. Par ces signes extérieurs, on reconnaît la naissance de l'Église, c'est-à-dire cette Église engendrée du côté de notre Seigneur. À ce moment-là apparaît visiblement, sous ces signes extraordinaires, au monde entier, il existe, l'Église catholique, l'Église unique de notre Seigneur Jésus-Christ, existe bel et bien, elle est là. Et on y voit les premières conversions, Que faut-il faire? Faites pénitence et le baptême. C'est bien un jour où il faut regarder cette relation du Saint-Esprit avec son Église, mais aussi avec chacun de ses membres. Les pères de l'Église prennent une image, ils suivent cette image du corps mystique pour dire que le Saint-Esprit, c'est l'âme de l'Église. L'âme dans le sens où l'âme est le principe de vie. C'est l'âme qui donne la vie à tout le corps et à tous les organes du corps. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans notre corps vit parce que notre âme est là et communique cette vie, ce mouvement intérieur. Et au moment même où notre âme s'en va, eh bien tout le corps et tous les organes se meurent. Et c'est donc le Saint-Esprit qui va communiquer toute cette vie surnaturelle, cette vie de la grâce à ce corps, corps mystique, corps surnaturel qui est l'Église. D'une manière telle que cette Église est le seul moyen fondé par notre Seigneur Jésus-Christ qui est le seul pont entre la créature et Dieu, le seul chemin entre la créature et Dieu. Eh bien, notre Seigneur, seul pontife, seul médiateur, a fondé une seule Église qu'il appelle « mon Église ». Et à cette Église, il a donné son Esprit, l'Esprit Saint. Et ainsi, toute âme sauvée le sera dans cette incorporation au corps mystique. C'est là qu'elle va recevoir cette communication de vie, cette communication de la grâce du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'œcuménisme. Le fameux cardinal Casper vient d'ailleurs de faire une intéressante conférence sur ce sujet, où il nous dit que le Saint-Esprit est le pionnier du mouvement œcuménique, que le Saint-Esprit est dynamique, il est vie, il est liberté. Et quand on continue, on voit que il explique comment cet œcuménisme se développe. Il dit par exemple, maintenant on est passé dans l'idée de l'unité, dans la pluriformité, c'est son terme. Et il décrit comment, eh bien maintenant on accepte plusieurs credos. Finalement, tous ont la même foi, mais ils n'ont pas le même credo. C'est la pluriformité. Les formules dogmatiques, c'est-à-dire la précision dans une expression, dans un concept, dans une expression verbale, dans un terme, a toujours été défendue par l'Église pour précisément protéger la foi. Iodem sensu, iademque sententia. C'est une parole clé dans l'enseignement de la foi. Ce qui s'enseigne doit s'enseigner toujours dans le même sens. Et on sait bien que si on change le concept, on va changer le sens. Faire ce que dit Casper, mais c'est avoir une espèce imaginée, une âme qui, se promenant dans le corps, estime que, ma foi, le cœur est trop réduit, alors il fait sauter le cœur. Les reins, c'est un organe trop précis, alors on fait sauter les reins. Comme ça, voilà, tout le monde peut rentrer. C'est insensé. C'est vraiment des démolisseurs de la foi. Il continue sa description en disant que, eh bien, on arrive à la même chose maintenant dans la liturgie. Parce que récemment, le Vatican a décidé que une messe chaldéenne, où il manque les mots de consécration, est quand même valide. Et Casper considère cela comme quelque chose d'extraordinaire et qui montre de nouveau cette pluriformité, cette fois-ci dans les rites. Voyez-vous, on arrive jusqu'à considérer comme valide une messe où il n'y a pas de mot de consécration. Alors il est tout heureux. Et bien sûr, c'est la démolition de la théologie des sacrements. Ils savent ce qu'ils font en face. Il continue sur le primat. Tous ces points sont des points qui gardent l'Église, qui la protègent, qui conservent son unité. Eh bien, on voit un Casper qui passe par là avec son écuménisme et qui fait tout sauter. Il explique comment on fait sauter le primat du pape en l'affirmant et en ajoutant à côté la collégialité. Il appelle ça la collégialité, le collège par synodalité. Encore des termes bizarres. De cette église-là, nous n'en voulons pas. Cette description est intéressante parce qu'elle montre où ils en sont. Mais en même temps, elle rappelle d'une manière saisissante ce que un ancien évêque auxiliaire ici en Suisse, à Coire, Mgr Enrici, disait du concile. Au concile, disait-il, deux traditions théologiques sont entrées en collision qui, fondamentalement, ne peuvent pas se comprendre. Ça, c'est Mgr Enrici. Deux pensées entrent en collision au concile, des pensées qui ne peuvent pas se comprendre. Et il n'y a pas seulement eu collision, il y a eu invasion d'une pensée qui n'est pas catholique. Ça, c'est Paul VI. Paul VI dit ceci, ou a dit ceci, il y a dans l'Église une pensée de type non catholique. Il se peut bien qu'elle prévale, mais elle ne sera jamais l'Église. Voilà une réalité, la réalité à laquelle nous faisons face depuis 40 ans, que Mgr Lefebvre, lui, décrit en parlant de deux Roms, la Rome éternelle, l'Église catholique, à laquelle nous sommes attachés, pour laquelle nous voulons mourir, et une autre, une Rome moderniste, du type protestant, qui démolit tout ce qui se trouve sur son passage. Et ça, mes bien chers frères, c'est encore aujourd'hui la réalité de l'Église. Mais lorsqu'on parle de relation entre, disons, la fraternité Saint-Pédis et Rome, lorsqu'on regarde ici ou là quelques événements, eh bien, il ne faut pas oublier cet arrière-fond, cette réalité dans laquelle il faut inscrire les petits événements, ce qui, des fois, crée quelques émotions, mais qui passe. Lorsqu'on parle d'un soi-disant accord entre la fraternité et Rome, qui d'ailleurs n'existe pas du tout, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on veut dire? Nous disons, nous sommes catholiques, nous voulons rester catholiques. Et nous disons aussi, il y aura accord, union des cœurs, union de toutes choses, seulement au moment où Rome, où la tête, redira ce que l'Église a toujours dit, sera revenu à cette Rome éternelle. Tant que cela n'est pas, un accord est impossible. Et pourquoi? Certains voudraient, pensent, rêvent d'une chose pratique, en disant, bon, d'accord, on n'est pas d'accord sur des pensées de fond, alors, eh bien, essayons quand même de faire quelque chose sur le terrain, un accord pratique. Pourquoi cela est impossible? Nous sommes en guerre. Encore une fois, il y a une collision, il y a un combat. Il y a des pensées destructrices de l'Église qui sont diffusées à pleine main, des hérésies, des erreurs de toutes sortes. Pour rester catholique, pour vivre de la grâce, il faut nécessairement combattre ces erreurs. Il n'est pas possible de faire un accord avec ses erreurs. Dire accord pragmatique, si vous avez des belligérants, deux groupes qui sont en combat et qui tout d'un coup sont censés faire la paix, parce qu'un accord pragmatique inclut une paix. Cela implique nécessairement une entente quelque part. Forcément, au moins un, sinon les deux, devront baisser les armes. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, forcément, ceux qui dominent imposeront leurs pensées. Or, on le constate, jusqu'ici, à Rome, il y a un postulat, pas toujours exprimé clairement, mais qui est cependant toujours là. Un peu comme un arrière-fond, comme la dominante. Et c'est l'acceptation du Concile Vatican II et de la Nouvelle Messe. Et lorsqu'on regarde des actes récents, comme cette fameuse encyclique sur l'Eucharistie, qui, sous un certain rapport, nous réjouit parce qu'on y voit des rappels du Concile de Trente, donc des vérités qui ne sont pas seulement proches, mais qui sont nôtres. Il faut se poser la question, alors est-ce que Rome, ça veut dire que Rome a changé ou pas, lorsqu'il rappelle ces vérités? Du fond du cœur, nous le désirerions, nous espérions qu'il s'agirait là d'un début de conversion, d'un retour. Mais puisque au même moment, toutes les références sont la nouvelle messe, il n'y a aucune mise en question de tout ce qui a été fait au Concile. On parle bien d'erreurs, d'abus. N'en touche pas les principes. Alors comment comprendre cette encyclique? C'est le cardinal Ratzinger qui nous donne la solution il y a déjà bien longtemps. C'était lorsqu'il commentait un des textes du Concile, Dei Verbum, lorsqu'il commentait assez précisément l'explication que fait Vatican II de la tradition. Il explique pourquoi, d'une part, on cite le Concile de Trente, on cite Vatican I, et en même temps, on enseigne autre chose. Le terme clé, c'est relecture. On ne revient pas en arrière. On ne revient pas à l'enseignement du Concile de Trente ou de Vatican I comme tel. On prend les éléments de ces conciles et on les relit. Il y a une nouvelle lumière. On les expose à la lumière nouvelle de Vatican II. On réassume ce passé de l'Église et on le traduit dans une pensée nouvelle. On réintègre ce passé dans cette nouvelle Église de Vatican II. Alors, puisqu'il y a des abus, puisqu'on n'arrive plus à vendre la marchandise, bien sûr, il va falloir réviser un peu. On va parler de réforme, de la réforme. Mais il ne s'agit pas d'une mise en question de la réforme. C'est un axiome. C'est-à-dire un principe qu'on accepte, qu'on doit accepter a priori. Vatican II, la nouvelle messe. Et c'est aussi pour cela qu'il n'y a pas eu plus de réaction, de tollé de la part des épiscopats. En fait, mes bien chers frères, c'est toujours le même système. Si on regarde les grandes encycliques de ce pape, par exemple Veritatis Splendor, qui a été une redescription de la question de la morale, ou Fides et Ratio, qui reprend la question de la foi et de la raison dans des questions fondamentales, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit précisément cette lecture. On reprend les termes anciens, les termes qui nous sont chers, mais on les réinsère, on les réassume sous une nouvelle lumière. Si vous voulez peut-être une image, si c'est un petit peu compliqué, lorsque un chef, un président, un dirigeant, un roi, d'une quelconque société, conduit cette société, eh bien, il va essayer de unir les volontés de chacun des membres de cette société en les dirigeant vers le but de la société. Il va donner tout un tas d'ordres, des dispositions, et toutes ces choses seront réglées pour unir toutes les forces vers ce but vers lequel on va diriger toutes les énergies, les forces de cette société. Ça crée comme une espèce de courant, de flux dans cette société. Ça, c'est vrai pour toute société. Et dans l'Église, à partir du Concile, on a donné un but, un courant nouveau, qu'on appelle l'esprit de Vatican II. Et tout ce qu'on a fait, toutes les réformes, il a vraiment touché à tout. On l'a fait au nom et dans cet esprit de Vatican II. C'est comme s'il y avait, si on peut dire, parce qu'il y a toujours un flux dans l'Église, c'est normal, dans toute société, c'est ainsi. Eh bien, au moment du Concile, on a créé un nouveau fleuve dans l'Église. On a voulu assécher le vrai fleuve et on en a créé un nouveau courant. Et tout ce qui se fait dans l'Église, aujourd'hui, se fait dans ce courant. Faire un accord avec Rome, ce serait à peu près ceci. Rome nous dit, bon, écoutez, on vous donne un bateau. Dans le bateau, vous faites à peu près ce que vous voulez. Mais le bateau, on le met dans le courant. Le seul moyen pour un bateau sur un fleuve de rester sur place, c'est de ramer à contre-courant. Et on peut dire que c'est ce que nous faisons depuis 40 ans. Nous sommes toujours à contre-courant. S'il y avait un accord aujourd'hui, eh bien c'est ça qu'il voudrait nous empêcher de faire, de ramer à contre-courant. Et l'exemple de Campos nous le montre bien. À Campos, dans le petit bateau de Campos, ils ont l'impression d'être encore traditionnels. Mais celui qui a les relations avec Rome, Monseigneur Rifan, celui qui a les contacts avec, si on veut dire, ce fleuve, à quoi est-il soumis? Eh bien, à toutes sortes de pressions. Par exemple, celle-ci. Rome lui dit, écoutez, le diocèse de Campos fête cette année ses 80 ans, alors il faut que vous alliez à la messe. À la messe célébrée par l'évêque, c'est la nouvelle messe. Alors il faut absolument que vous soyez présent à cette messe. Et Monseigneur Rifan y va, dardard. Il y a l'intronisation du nouveau nonce au Brésil. Monseigneur Rifan y va. Mais voilà que ce nonce à l'idée, au moment de la communion, de dire, ben écoutez, tous ceux qui êtes présents là, il faut que vous veniez communier, hein. Et Monseigneur Rifan y va. Il y a la procession de la fête Dieu. Ah, il faut montrer qu'on est un maintenant. Il y va. Il explique, si on n'y était pas allé, on aurait mis en danger les accords. Voyez-vous, il n'est pas nécessaire que ces choses soient explicites. Elles sont tout simplement là. Et ça suffit. Ça suffit pour doucement, lentement, démolir les principes par des actions contraires. Et quand on agit contre ces principes, forcément à un certain moment, on est obligé de changer de principe. Voilà pourquoi, mes chers frères, nous faisons les têtes de mule et nous ne bougeons pas. Ce que nous voulons est tout à fait autre chose que ce que veut Rome. Ce que nous voulons, en fait, c'est le miracle de Jéricho. C'est que le fleuve change de sens. Qu'il recoule dans la bonne direction, la direction catholique. Et nous rendons bien compte que cela nous dépasse. Mais précisément, nous sommes dans une crise de l'Église énorme. Ce qui est en jeu, ce sont vraiment les fondements de l'Église. Jusqu'à la foi. La vérité, elle est exclusive. C'est-à-dire qu'elle n'admet pas d'autre solution. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, une seule foi, une seule Église, un seul baptême. Il n'y en a pas 36. De la même manière qu'il n'y a qu'une solution à 2 plus 2. L'écuménisme, justement, cette pluriformité, c'est-à-dire que toutes les réponses sont valables, tous les chiffres sont valables. De toute façon, tous les chiffres veulent dire 4, n'est-ce pas? On entre là dans un relativisme épouvantable. Et c'est la même chose qui arrive sur la question du bien. Et la vérité et le bien sont exclusifs. Et aujourd'hui, on subjectivise tout. On ne veut plus de ce Dieu qui est au-dessus des créatures, qui est un, qui est la vérité, qui est le bien absolu, indiscutable, auquel nous devons nous soumettre absolument, totalement. Notre Seigneur, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, ne dit pas que c'est le promoteur du mouvement écuménique ou le pionnier du mouvement écuménique. Il dit c'est lui qui rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage. Ça veut dire quoi ça? Vous aussi vous allez mourir. Vous allez mourir pour cette vérité. Pas d'écuménisme. Pas de « Ah si, peut-être bien que vous avez raison aussi. » Non. Nous avons la vérité et nous sommes prêts à mourir pour elle. Si aujourd'hui l'Église existe, c'est parce que les apôtres, sous cette influence bénéfique du Saint-Esprit, sont allés jusqu'au martyr. Ont gardé totalement, absolument, cette exclusivité de la vérité, de la foi qui sauve et sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais c'est vrai aussi que cet esprit de Vatican II est extrêmement subtil. Quand on lit ces encycliques, on voudrait les lire avec des yeux catholiques. Quand on les lit avec des yeux catholiques, on voit certaines phrases qui sonnent catholiques, on s'en réjouit. On en voit d'autres où on ne comprend rien, alors on les saute. Sans penser que ce sont elles les clés de lecture. Il y a deux lectures. Voilà ce génie mauvais de Vatican II. Il y a quelque chose de génial, terrible. Une pensée de type non catholique est entrée dans l'Église. Et il va jusqu'au pape de dire « il se peut que cette pensée de type non catholique prévale ». Voilà la crise. Et la solution, c'est-à-dire notre attitude devant cela, eh bien, c'est que de cette pensée non catholique, nous n'en voulons rien. Le pape continue en disant, après avoir dit « elle n'est pas l'Église, elle ne sera jamais l'Église », il faut qu'il reste un petit troupeau, aussi infime soit-il. Encore une fois, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Paul VI. Demandons au Saint-Esprit ses grâces de force, de persévérance, de lumière, de vrai amour, de vraie charité, d'amour de Dieu d'abord, de la foi, d'amour des âmes aussi. Mais bien sûr que nous désirons que toutes les âmes soient sauvées, mais il n'y a pas 36 chemins. Demandons aujourd'hui, oui, au Saint-Esprit, promis à l'Église jusqu'à la fin des temps, et qui assure la vérité de cette promesse, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. L'Église survivra à cette crise. Eh bien, demandons aujourd'hui, par la Sainte Vierge présente au milieu des apôtres, demandons-lui, à l'épouse du Saint-Esprit, de bien recevoir le Saint-Esprit, d'être docile à ses inspirations, à sa conduite, pour être fort, vrai, aimant Dieu jusqu'au bout, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.